Bon, alors ça devient de plus en plus difficile pour les suivants. Mais... Donc il nous reste à parler maintenant de choses assez précises, en fait, qui sont dans les obstacles à la croissance des PME. Je crois qu'on vous a tous convaincus qu'il y avait des obstacles à la croissance des PME. Quel est le rôle du financement? Quel est le partage du financement public, financement privé? Et quels sont les obstacles non financiers, réglementaires, légaux, juridiques, etc. Et ensuite, on ouvrira la séance finale de questions pour que vous soyez totalement libres ensuite. Donc, je vais passer la parole à Arnaud Caudou, qui représente Oseo, qui, vous savez, est une grande banque qui finance en partenariat les PME dans ce pays.
Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord excuser François Drouin, qui est mon président. Donc, je suis très honoré d'être là en son lieu et place. Il s'excuse auprès de Patrick Artus, auprès de vous tous. Il n'est pas là pour la bonne cause, ceci dit, puisqu'il est au Brésil. Et il n'est pas au Brésil pour danser la samba, il est au Brésil avec une... Vous direz, ce n'est pas incompatible, mais enfin, il est au Brésil avec une centaine d'entreprises pour les présenter à notre homologue brésilien, donc à la banque publique, puisque le Brésil, tout Brésil qu'il est, a une banque publique de financement des PME et a ses propres difficultés de financement. Et donc, on présente une centaine d'entreprises industrielles innovantes à notre homologue pour travailler sur leurs problématiques de financement local et pour travailler sur des problématiques de rapprochement et de partenariat avec des entreprises brésiliennes. Je crois que c'est aussi un bon exemple de ce qu'on peut faire, qui aide énormément la croissance à l'international des entreprises et qui ne coûte strictement rien, à part le billet d'avion et la chambre d'hôtel de François Drouin, à l'État public. Et encore ça, c'est Oseo qui paye sur ses bénéfices, donc ça ne coûte rien à personne. Et je peux vous dire que pour les boîtes qui font ce type de déplacement, le fait qu'Oseo ait ce type de relation avec ses homologues dans ces grands pays émergents est un grand facilitateur de partenariats concrets et de solutions concrètes de financement sur place. Alors Oseo, très rapidement, c'est une banque publique de financement des PME, donc c'est une banque justement local et régional, c'est un peu l'établissement local et régional dont parlait Augustin de Romanet tout à l'heure. Ça répond précisément à cette problématique un petit peu bottom-up. On n'est pas là, nous, on n'a pas été créé pour aider un secteur ou pour aider l'industrie. On a été créé sur l'analyse qu'il y avait un problème historique dans les années 80 de financement des PME en général, d'asymétrie d'information, etc. Et on s'est dit, il faut un acteur qui intervienne, qui soit public, qui ait une facilité d'accès au financement, qui ait des moyens publics pour prendre du risque et qui intervienne en partage avec les banques privées pour aider les acteurs privés à financer les PME. Pourquoi je dis ça? Parce que le résultat de ça aujourd'hui, il est assez intéressant quand même. On est en gros naturellement orienté vers les segments dans lesquels les banques éprouvent des difficultés de financement, soit en trésorerie, soit en risque. On a, nous, 800 chargés d'affaires sur le terrain qui ne font que travailler des dossiers de financement d'entreprise depuis qu'ils sont tout petits et toute la journée, qui ont donc une expertise, qui apporte aussi cette expertise à nos partenaires bancaires. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, quand on regarde ce qu'on fait, on permet de mobiliser à peu près 20 milliards d'euros de financement en dette par an. On constate que la moitié de ces financements bancaires vont dans l'industrie. Donc 50% de ce que finance Oseo aujourd'hui va dans le secteur industriel. Et quand on regarde les chiffres de la Banque de France en termes de financement d'entreprise, on constate que le financement moyen long terme des sociétés industrielles, c'est 9% des encours. Donc on voit bien qu'il y a un problème, c'est pas un scoop, mais ça se voit de manière très forte dans les chiffres. Il y a une énorme difficulté de financement de l'industrie. Elle est liée à l'état économique du tissu industriel, elle est liée aux besoins, à l'ampleur, au côté intensif en capital de l'industrie. Et ce problème est très fort, il est d'autant plus fort que la traduction entre guillemets financière de la désindustrialisation, c'est que le secteur de l'industrie est celui qui emporte le coût du risque le plus élevé. On vient de sortir une étude là-dessus. Dans les années 2000, pour 20%, je crois, je suis même sûr, pour 20% d'entreprises de plus de 10 salariés qui étaient au départ des entreprises industrielles, on a 40% des procédures collectives qui concernent des entreprises industrielles. Ça veut dire qu'en gros, dans les années 2000, le coût du risque sur les entreprises industrielles a été 3 fois plus élevé que sur les autres entreprises. Donc il y a une vraie difficulté, il y a un vrai problème. Et pourtant, on y arrive, et pour voir les chiffres, nous, je peux vous dire qu'on y arrive avec un coût du risque qui est comparable à ceux des autres secteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que c'est devenu vraiment un sujet de spécialiste. C'est devenu un sujet assez compliqué de financer l'industrie. C'est compliqué en termes d'analyse des dossiers. Et là, on a une vraie valeur et je pense qu'il faut qu'on la travaille plus. Et qu'on la travaille notamment au-delà du financement bancaire. On voit aujourd'hui des problématiques qui sont des problématiques de financement global. C'est l'autre sujet du moment. Aujourd'hui, un entrepreneur, il arrive, il sait qu'il doit innover, il sait qu'il est petit, mais il sait qu'il doit innover, il sait qu'il doit être international, il sait que très vite, il va devoir faire de la croissance externe. Et donc, on se retrouve avec des entreprises qui vont faire 20 salariés, 50 salariés, qui en feront peut-être 200 ou 500 dans 3 ans, qui présentent des problématiques de financement de projets qui sont complexes et qui ne sont plus juste des problématiques de financement de BFR ou des problématiques de financement de machines-outils ou des problématiques même de levée de fonds propres. C'est une problématique de financement d'un projet qui demande qu'on réfléchisse à une solution d'ensemble et donc qui demande à ce qu'on s'articule mieux, en particulier entre acteurs publics, ce à quoi on travaille d'ailleurs avec la Caisse des dépôts en ce moment, pour apporter des solutions de financement côté acteurs publics qui emporte à la fois la partie court terme, la partie financement long terme et la partie fonds propres, avec en particulier des produits de financement bancaire qui soient plus light que les crédits bancaires classiques, pour créer des conditions d'investissement pour les investisseurs en fonds propres qui soient raisonnables pour les entrepreneurs, puisque il y a deux problèmes dans l'investissement en fonds propres. Il y en a un qui est que tout le monde n'a pas envie d'ouvrir son capital, donc il faut pouvoir l'ouvrir dans des conditions satisfaisantes. Et ça, aujourd'hui, on voit que ça demande des produits de financement en dette qui permettent de faire suffisamment de levier. C'est ce qu'on fait avec les contrats de développement participatif à la demande de l'État depuis 2 ans. On apporte des produits qui ne prennent pas de collatéraux, qui apportent un différé d'amortissement, et on les apporte en parallèle avec des investisseurs. Donc c'est un travail commun aux EO investisseurs. Et on a besoin, c'est le deuxième problème, et j'en resterai là puisque je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour mes camarades, on a besoin également d'aller chercher les dossiers. Je crois que c'est très important aujourd'hui plus que jamais. Il y a des gens qui portent des rêves, il y a beaucoup de beaux projets, même si l'industrie a coûté cher. Je peux vous dire, on en voit et on met nos fonds propres quand on finance des entreprises, donc on fait vraiment attention à ne pas faire n'importe quoi. On voit beaucoup de très beaux projets avec une part de rêve, mais aussi avec des vrais business plans en face. Il y a aussi des entreprises où il faut aller provoquer un petit peu le rêve, pousser un peu les gens. Et donc, c'est important d'avoir un réseau qui a la confiance des entrepreneurs, qui peut parler avec eux, qui peut discuter de sujets qui sont des sujets sensibles, du type « j'ai besoin d'ouvrir mon capital si je veux avancer, mais je sais que je peux avancer et que j'ai des opportunités. Éventuellement, j'ai besoin de préciser ce qu'elles sont et de travailler un petit peu stratégiquement là-dessus. » Voilà, très vite, les sujets.
Merci beaucoup. Donc ensuite, nous passons la parole aux méchants banquiers. Donc Olivier Klein, est-ce que les banques tordent le cou des entreprises et leur empêchent de grandir?
Je ne vais pas faire de publicité bancaire du tout. Je vais parler, comme tu disais tout à l'heure, Patrick, en tant que et économiste et banquier, mais surtout avec le point de vue un peu de recul.
Il y aura deux idées, Olivier.
Un certain recul. 4 idées en maximum 1 minute chacune. D'abord, la question, c'est est-ce que le financement des PME est un problème dans la croissance? Puisque, on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un partage de diagnostic, c'est qu'un des problèmes de la France, c'est que les PME ne grandissent pas suffisamment. Il n'y en a pas assez. À la première, évidemment, réponse que je voudrais apporter, et à les statistiques, c'est qu'il n'y a pas de question de financement en moyenne, naturellement, des PME en France. Je ne donne pas les statistiques, mais si vous les voulez tout dans le débat, je vous les donnerai. L'autofinancement a baissé depuis 10 à 15 ans, ce qui veut dire que pour une quantité d'investissement donnée, il y a eu plus de financement bancaire chez les PME. Deuxièmement, le taux d'endettement des PME sur le PIB a monté depuis 10-15 ans. Et troisièmement, là je donne un chiffre, en 2010 comme en 2011, les encours des banques ont augmenté de 6% chaque année pour financer les PME, c'est-à-dire plus que la croissance nominale. Donc les financements en réalité sont abondants. Qu'il y ait quelques entreprises qui trouvent moins de financement, c'est normal, puisque les banques ont aussi un rôle de sélectivité. Elles sont là aussi pour sélectionner, parce que précisément tous les projets ne peuvent pas tous être valables, et que les banques ne peuvent pas financer avec l'épargne publique, ça va sans dire, les crédits à des entreprises qui iraient mal, durablement ou définitivement. En revanche, elles sont là pour soutenir les entreprises quand celles-ci ont des passages à vide et quand leur avenir n'est pas compromis. Donc il n'y a pas de problème de financement, et il y a un besoin des banques, pour une raison très simple, contrairement à ce que j'entends parfois dire, que je ne comprends pas toujours, c'est que les PME, jusqu'à une taille assez importante, ne peuvent pas vraiment faire appel au marché financier. Il n'y a pas la taille, tout simplement. C'est une question d'asymétrie d'information en théorie économique. Et les particuliers, les professionnels, comme les PME, n'ont pas la surface suffisante et les disponibilités d'argent pour aller être reconnus, connus auprès du public qui pourrait acheter sur les marchés financiers. Donc ce sont les banques qui font ce rôle et qui le font globalement sans faiblir, y compris d'ailleurs en 2008-2009, aussi grâce à la Banque de France, aux médiateurs, etc., à cette période-là. Il y a aussi beaucoup de capital investissement en France, capital risque, du private equity, comme on dit aujourd'hui. Et ce private equity est souvent aussi bancaire. Il n'est pas que bancaire, il est aussi privé, mais il est aussi dans les banques. Les banques ont des structures. Et honnêtement, aujourd'hui, le private equity cherche plutôt des dossiers que l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une concurrence entre ceux qui gèrent les fonds pour trouver les entreprises et investir dedans. Elle est très forte. J'ajoute qu'il y a Oseo, je n'y reviens pas, et j'ajoute qu'il y a le fonds stratégique d'investissement avec Augustin, je n'y reviens pas parce qu'il est essentiel également et qui apporte aussi des capitaux propres. Deuxième réflexion, très rapide, si jamais il n'y a pas eu de problème de financement des PME jusqu'à présent, en revanche, la réglementation bancaire et les marchés financiers aujourd'hui peuvent compliquer le jeu pour demain. Pourquoi ? Les marchés financiers, parce qu'ils ont un peu peur des banques européennes, parce qu'elles détiennent des dettes du sud de l'Europe, pas du tout spéculativement, mais tout simplement pour placer sans risque, il y a 2-3 ans, c'était encore considéré comme des placements sans risque du tout. Donc, il y a des banques européennes qui détiennent légitimement des dettes publiques du sud de l'Europe. Et les marchés financiers, notamment anglo-saxons, ont peur des banques européennes et leur prêtent moins. Deuxièmement, dans la crise financière, les marchés ont envie d'avoir plus de capitaux propres dans les banques, qu'elles soient avec des ratios plus élevés de sécurité pour pouvoir leur prêter. Du coup, toutes les banques, par la réglementation ou par elles-mêmes, cherchent à augmenter leur solvabilité, c'est-à-dire au fond, à augmenter leurs capitaux propres sur les crédits qu'elles font. La petite difficulté, c'est que, bien sûr, les banques doivent être plus solvables encore, plus sûres encore, mais si on demande à le faire trop vite, comme les marchés financiers sont fermés et que les banques ne peuvent pas lever de capital en moyenne, évidemment, la seule possibilité alors, c'est de ralentir les crédits. S'il y a moins de financement aux banques et si on précipite de trop l'augmentation et trop vite l'augmentation de la solvabilité bancaire, c'est-à-dire des capitaux propres sur les crédits, si on ne peut pas augmenter les capitaux propres, il faut réduire les crédits. Et là, il y a un danger de rationnement réel qui arrive, de rationnement du crédit, renforcé en plus par les ratios de liquidité de Bâle 3, je ne rentre pas dedans, mais qui sont probablement très dangereux pour le crédit demain. Avec deux idées pour finir. D'abord, la politique de territoire. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Gérard Collomb, d'ailleurs, il n'est pas là, je peux le dire plus facilement encore, il a écrit un très bon livre dans lequel il y a pas mal de chapitres sur la politique de territoire et justement l'interpénétration des différents niveaux. Je dirais simplement, avant-dernière idée donc, que les banques régionales sont l'un des piliers essentiels du financement des PME. Pour une raison que, et je remercie beaucoup Augustin de Romanet de l'avoir dit, pour une raison très simple, c'est que les banques régionales ne prêtent pas que sur des scores de crédit. Les scores de crédit sont importants pour l'aide à la décision, mais la connaissance des gens, la connaissance de l'entreprise, de son intimité, nécessite une proximité qui est rendue et qui est possible par les banques régionales. C'est donc un antidote au centralisme français, et je pense franchement, ce n'est pas parce que ici je suis Banque Populaire et Caisse d'Épargne, c'est parce que je crois cela que je suis Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Ensuite, le tissu régional est irrigué par ces banques. Et enfin, dernière idée, c'est fini, oui, Patrick est toujours très pressé. La dernière idée, c'est simplement, et j'en finis là, qu'au fond, au-delà de la compétitivité coût, sur laquelle je ne reviens pas, parce qu'il y a un problème de compétitivité coût en France aussi, au-delà de la recherche de qualité sur laquelle je ne reviens pas, il y a un environnement global sur lequel il faut travailler. Je crois beaucoup aussi au Small Business Act, parce que, en fait, les PME ont bien plus besoin de clients que de financement. Dès qu'il y a des clients, il y a des financements. Et deuxièmement, c'est l'environnement général qui fait qu'on donne envie aux gens, aux Français, à nous tous, d'entreprendre. Et cette envie-là, elle se construit, elle s'entretient, elle se chérit. Et l'envie d'entreprendre, ce n'est pas de droite, ce n'est pas de gauche, c'est juste vital. Merci.
Merci Olivier. Alors pour clore, vous pourrez... Olivier, reste avec nous, puisqu'il y a beaucoup de nos amis autour de la table qui doivent prendre le train de Paris. Donc pour clore, je passe la parole à Philippe Castagnac, donc qui va nous donner sa vue, alors vraiment
et puis
décontracté, de pourquoi, c'est quoi vraiment le problème avec les PME.
Alors d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont eu la patience et l'assiduité de rester jusqu'à maintenant, parce que finalement la salle s'est bien vidée. Ensuite, je voudrais féliciter ceux qui ont organisé ces journées, car vraiment ces journées de l'économie sont plus qu'intéressantes. Et je voudrais enfin me réjouir que Mazars soit un des grands partenaires de cette réunion, car ces journées correspondent pleinement, au revoir, pleinement en fait à nos propres valeurs. Alors trois idées en 30 secondes finalement, parce qu'effectivement j'ai aussi ce train de 21h comme vous mes chers amis. La première idée en fait c'est que, et elle est très liée à la conjoncture d'aujourd'hui, plus encore qu'hier, il faut faire envie et il faut donner envie à ces jeunes chefs d'entreprise, jeunes ou moins jeunes, de poursuivre dans ces aventures et de continuer à mettre toute leur énergie au service de l'économie, car après tout ils créent des emplois, hein, ils développent l'économie, ils permettent de vendre, de collecter des taxes eux aussi. Or, très souvent aujourd'hui, il y a une assimilation absolument insupportable entre les quelques dérives de grands chefs d'entreprise ou de grands détournements ou de grands millions qui circulent dans certaines poches, alors que ces chefs d'entreprise-là sont souvent des gens qui travaillent extrêmement fort, extrêmement longtemps. On est très loin des 35 heures et ils sont surtout très loin de gagner les fameux millions qui ont plus ou moins déshonoré certains titres de président. Donc en fait, soutenons-les et continuons à faire envie. Et ça rejoint la question de monsieur qui parlait du rêve tout à l'heure, ou de Martin Luther King. Il faut savoir aujourd'hui, lorsqu'on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, avoir absolument envie de prendre des risques et de s'investir dans un métier et donc, par conséquent, de développer et de participer à l'aventure économique de notre pays. Donc ça, c'est une vue d'ensemble, en fait, très, très globale. Deux points donc techniques en 20 secondes. La première, c'est que, bien entendu, le coût des talents aujourd'hui, je dis bien des talents, les ressources, tout le monde a des talents et toutes les ressources sont talentueuses. Le coût des talents aujourd'hui est insupportable en France. Et il limite considérablement l'emploi, il détruit une partie de l'économie et des entreprises. Il faut baisser le coût des ressources et des talents. Donc, évidemment, le yaka faucon, c'est simple. Mais enfin, l'impôt est là pour redistribuer les choses. Il faut redistribuer autrement la collecte de la taxe, pas par les charges sociales, pas par le coût du travail, mais probablement par un impôt de redistribution, à condition, bien entendu, qu'il ne soit pas un impôt de captation ou de destruction du patrimoine. Donc, idée simple, mais qu'il faut bien arriver à mettre en œuvre, baisser le coût des ressources du travail. Et la troisième et dernière idée, pour vraiment faire très court, sinon on va tous louper l'avion, le train, pardon, c'est que en termes de fiscalité et en termes de règles de droit social, il faut stabiliser le périmètre. Alors certainement pas les taux, puisqu'on voit bien que l'État a besoin d'argent, donc il va y avoir des impôts qui vont augmenter, mais il faut stabiliser les règles, notamment les règles du droit du travail, sauf jurisprudence qui nécessite éventuellement d'amender certaines approches, mais il faut vraiment stabiliser le paysage, car les règles du jeu qui changent toutes les 5 minutes, c'est exactement ce qui décourage et ce qui ne fait plus envie. Donc il y a ça, et puis il faut accepter, mesdames et messieurs, chacun, de mettre un peu sa ceinture, parce que comme dans un avion, ça va bouger, il va y avoir des turbulences, certains parlent de 2 ans, de 5 ans, peut-être d'un peu plus, il faut accepter ces turbulences, il faut les assumer, et il faut le faire absolument pour les générations futures, car sinon, en fait, il n'y aura plus de société et plus d'envie pour personne. Voilà.
Merci beaucoup. Donc il est 31, donc il faut que nos amis parisiens partent. Qui n'est pas parisien autour de la table donc on va rester. S'il y a une question urgente, sinon on peut aller boire un verre ensemble, si vous voulez. Et sinon, alors, attendez, on va quand même prendre une ou deux questions, mais ceux qui doivent prendre le train, je me déguiserai. On va prendre une question, alors on va aller boire un verre. On va aller boire un verre ensemble et que vous poserez toutes les questions. Salut.